Chapitre 31. Quelqu'un s'étouffe et elle ne peut pas le sauver. Un garçon en général, un jeune homme ou un adolescent qui s'étouffe. Et Grace n'est pas assez forte ou pas assez rapide. Soit elle arrive trop tard, soit ses efforts sont vains. Ce n'est pas un rêve, c'est une pensée qu'elle ne cesse d'avoir, un scénario qu'elle imagine sans le vouloir. Le phénomène s'est manifesté pour la première fois quelques jours plus tôt, après la visite de Becker. Au début, c'était seulement au réveil. Pourtant, ce n'est pas un cauchemar, c'est plus compliqué que ça. Mais depuis quelque temps, la scène s'impose à Grace de plus en plus souvent, quand elle marche, ou quand elle se fait un café, quand elle lit ou qu'elle écoute la radio. Malgré elle, elle se représente cet homme agonisant. Grace a déjà vécu ça, elle sait ce dont il s'agit. Une pensée intrusive, rien de plus. Ni un souvenir, ni une prémonition. Simplement une image désagréable que son subconscient persiste à générer. Comme un chat qui essaie de recracher une boule de poils. Il faut qu'elle s'en débarrasse, mais de manière tranquille. Qu'elle l'ignore sans en avoir l'intention. Pour cela, elle doit faire un peu plus attention à elle. Se promener, manger correctement, limiter la caféine, mieux dormir. À force de vivre au rythme de la lune et des marées, Grace s'est laissée aller. Elle a pris de mauvaises habitudes qu'elle doit maintenant perdre. Elle se rend à Kararan pour demander des somnifères à son médecin traitant et établit un rituel matinal strict. Elle règle son réveil à 6 heures, se force à sortir du lit et à aller se dégourdir les jambes dehors. Puis, mange un bol de porridge et boit son seul café de la journée. Elle se sent rapidement mieux. Hélas, le docteur ne lui a prescrit que 10 jours de somnifères. À présent, elle n'en a plus et reste éveillée des heures entières. Cette nuit, elle ne s'est pas endormie avant 3 heures du matin. Alors, en entendant son réveil à 6 heures ce matin-là, elle l'attrape et le jette par terre. Quand elle rouvre les paupières, il est de nouveau là. Pas un garçon cette fois, mais un homme. Cette fois, ce n'est pas une pensée intrusive, mais un intrus, un vrai. Un homme à la fenêtre, les mains de chaque côté du visage pour épier dans la chambre. Grace pousse un cri. Elle se redresse en sursaut et les draps glissent du lit, révélant sa poitrine nue. L'homme dehors bondit en arrière tel un cheval qui se cabre, en criant « Désolé, désolé !» Grace enfile une robe de chambre et se précipite dans l'entrée, où elle s'empare du fusil avant d'ouvrir la porte pour sortir en furie dans le soleil éblouissant. L'homme recule, la main en l'air. Il porte des vêtements de marche et un sac à dos. Un randonneur. Ses compagnons, 2 hommes d'une 20aine d'années à première vue, se tiennent plus bas sur le chemin.
« Qu'est-ce que vous fichez là, au juste ?»
aboie Grace.
« Je suis désolée !»
répète l'autre en baissant les bras.
« Je voulais juste... Je pensais que c'était abandonné. Je voulais juste regarder à l'intérieur. »«
Abandonné ? Il y a une voiture garée devant. Vous êtes sur une propriété privée !»
ajoute-t-elle. Et l'homme leva les sourcils.
« Il y a un sentier juste là !»
fait-il remarquer avec un geste par-dessus son épaule.
« Et puis, en Écosse, la nature appartient à tout le monde, alors... »«
La nature peut-être, mais pas la fenêtre de ma chambre. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?»
L'homme se retourna en continuant de marmonner des excuses, mais ses amis affichent un sourire narquois.
« Dégagez d'ici !»
s'écrie encore Grace. Puis, elle serre les pans de sa robe de chambre autour d'elle et rentre. Alors qu'il s'éloigne sur le sentier en direction du rocher, elle les entend ricaner. Elle se sent idiote. Il n'y avait aucune raison de s'énerver ainsi. Elle n'aurait même pas dû sortir, d'ailleurs. Elle songe qu'ils doivent être en train de se moquer d'elle. Elle essaye de deviner ce qu'ils vont dire de sa nudité, les plaisanteries qu'ils vont faire au sujet de son corps repoussant, de sa peau flasque et de ses seins tombants, de sa misérable solitude. Elle repose le fusil dans l'entrée et verrouille la porte. Il est déjà presque midi, elle a dormi beaucoup trop tard. Désormais, elle est certaine qu'elle ne fermera pas l'œil de la nuit et que dès demain, elle sera de retour à la case départ. Et bien sûr, quasi instantanément, l'image revient. Le garçon qui se tient désespérément la gorge. Grace se force à accomplir des tâches pratiques. Elle passe le balai dans la cuisine, nettoie la cabine de douche, sort jeter ses déchets alimentaires sur la pile de compost.
Elle voudrait payer ses factures, mais elle n'a plus Internet depuis 4 jours déjà. Comme il n'y a pas de réseau sur l'île, dès qu'elle a constaté la panne, elle s'est forcée à aller jusqu'au village pour téléphoner à l'opérateur. Et son interlocuteur de la centrale d'appel s'est montré rassurant. Cependant, sa connexion n'est toujours pas rétablie. Elle n'a aucun moyen de savoir pourquoi, ni combien de temps cela va encore durer. Pour faire avancer les choses, elle n'a plus qu'à tout recommencer. Retourner au village, rappeler l'opérateur, et attendre une éternité que quelqu'un décroche. Le simple fait d'y penser l'épuise, mais elle n'a pas le choix. Becker a peut-être essayé de la contacter. Après tout, il a bien dit qu'il lui écrirait un email pour expliquer son départ précipité. Elle se douche, s'habille, ferme la maison et prend sa voiture pour se diriger lentement vers la chaussée submersible sous un ciel bleu azur. Sur l'étendue de sable au pied de la maison, 2 bébés phoques pâles et grassouillets se prélassent au soleil. Lorsqu'elle passe à proximité, il lève la tête pour l'observer. « Regarde, Vanessa, » a-t-elle envie de s'exclamer. « Tu as vu ?» Les jours comme celui-ci, l'absence de Vanessa lui fait l'effet d'un poignard plongé entre ses côtes. Le village est étrangement silencieux. Ce n'est qu'après s'être garée devant l'épicerie qu'elle se rend compte que celle-ci est fermée et que c'est dimanche. Ni café, ni pain frais, donc. La déception est si vive que Grace est à 2 doigts de fondre en larmes. Est-ce que les gens d'Internet travaillent le dimanche, au moins? Il s'avère que oui. Après une demi-heure d'attente, quelqu'un décroche.
« Il y a bien un problème sur votre ligne »,
lui confirme son interlocuteur. « Merci, mais je suis au courant », répond Grace. « Ça fait 4 jours que mon Internet ne fonctionne pas. » La personne au bout du fil se confond en excuses, lui promet qu'elle va se renseigner et la rappelle d'ici la fin de la journée. Est-ce qu'il y a un horaire qui l'arrangerait? Non, aucun horaire ne l'arrange. D'ici la fin de la journée, ce sera marée haute. Elle doit rentrer avant. Mais comment expliquer cela à quelqu'un qui travaille dans une centrale d'appel en banlieue de Newcastle, si ce n'est au fin fond de l'Inde? Lasse, elle se contente de rire et conclut « Dès que vous le pourrez. Rappelez-moi dès que vous le pourrez. » Alors qu'elle redescend la colline en direction du port au volant de sa voiture, elle aperçoit du coin de l'œil une pointe de jaune à l'autre bout du parking et décide de se garer près du remblai. Vêtue de son gilet jaune fluo, Marguerite fume une cigarette sur le banc devant son cottage. Grace la rejoint et la salue d'un geste. « Je t'ai vue !» s'empresse de dire Marguerite. « À l'heure bleue !» ajoute-t-elle. « Avant le lever du soleil !» « Ça m'étonnerait, » répond Grace en secouant la tête. « Je me suis réveillée très tard aujourd'hui. » Contrariée, Marguerite se met à bouder. Grace lui sourit. « Comment vas-tu? Comment va ton bras ?» demande-t-elle. Et Marguerite la dévisage sans comprendre. « Ton bras, Marguerite, tu t'étais fait mal, tu te souviens ?»«
Ah, ça va !»
affirme la vieille femme en agitant la main pour dissuader Grace d'insister. Celle-ci désigne la cigarette en secouant la tête et Marguerite fronce les sourcils. Lentement, délibérément, elle la porte à ses lèvres et tire une longue bouffée. Puis éclate de rire malicieuse. Soudain, on dirait que quelque chose lui revient et elle retrouve son sérieux.
« Est-ce que ton ami va revenir ?»
Le sourire de Grace se fige. Elle n'a pas la force pour ces choses-là aujourd'hui. « Peut-être, » dit-elle en tournant les talons. « Prends soin de toi, Marguerite, » ajoute-t-elle par-dessus son épaule. « Ne fume pas trop, d'accord ?» Alors qu'elle s'éloigne, elle se demande pourquoi elle perd son temps ainsi. Marguerite ne va pas suivre ses conseils. Et elle a bien raison. Il ne lui reste probablement plus très longtemps à vivre. Pourquoi se priverait-elle de ses derniers petits plaisirs ? Arrivée chez elle, Grace découvre que, miracle, Internet est revenu. Son enthousiasme retombe vite lorsqu'elle se rend compte qu'elle n'a ni message sur WhatsApp, ni email, en dehors de quelques spams et une alerte Google qu'elle a créée avec le nom de Vanessa il y a des années. L'alerte contient un lien vers une interview de Sébastien Lennox dans un hebdomadaire. « Héritage artistique », proclame fièrement le titre au-dessus d'une photo de Lennox, l'allure distinguée, les traits fins. Il tient de sa mère.
Douglas Lennox, lui, ressemblait plutôt à un gangster de Glasgow. L'héritier prend la pose sur la pelouse de son manoir, à côté d'un bronze de Barbara Hepworth. D'autres œuvres d'art illustrent le reste du papier. Une peinture d'Iona par Francis Cadell, une très belle nature morte de Samuel Peplou, et l'espoir et violence de Vanessa. L'article en lui-même n'est pas passionnant. Il s'agit d'un reportage assez conventionnel et bourré de clichés. On y découvre la demeure ancestrale de Sébastien Lennox, fidèlement restaurée. On y raconte la mort prématurée de son père, Douglas, redoutable patriarche, victime d'un tragique accident de chasse. Puis vient le portrait de Lady Emmeline, femme à la santé fragile, mais qui était une beauté aristocratique dans sa jeunesse. L'auteur ne manque évidemment pas de relater en détail le litige qui a opposé Vanessa et Douglas, ainsi que le coup de théâtre du testament de l'artiste. Naturellement, nous avons été très surpris, commente Lennox au sujet de ses legs inattendus. Car si mon père et Vanessa étaient autrefois des amis proches, leurs différends avaient depuis pris des proportions spectaculaires. Néanmoins, Lennox estime qu'en dépit de cette rancune entre son père et Chapman, cette dernière estimait que Fairburn serait l'endroit idéal pour héberger son œuvre. J'aime à penser que Vanessa savait que nous prendrions soin de ses créations et ferions honneur à son héritage artistique, conclut-il. Bien sûr, il existe peut-être une explication plus prosaïque. Chapman n'avait pas d'enfant et au moment de son décès, pas de famille proche. À qui d'autre aurait-elle pu léguer son patrimoine ? Grace cligne des yeux. Elle relit le paragraphe, puis fait défiler la page jusqu'à ce qu'elle aperçoive le nom de James Becker, conservateur de Fairburn, nommé à ce poste par Lennox en raison de sa connaissance de l'œuvre de Chapman. Pour moi, ce rôle de protecteur d'une telle collection est un rêve devenu réalité, commente-t-il. Malgré elle, Grace sourit à la description que propose l'auteur de Becker, un jeune homme sérieux aux airs d'étudiant. Issu de l'école publique, il se distingue à l'université d'Oxford. Elle poursuit sa lecture, une main contre la poitrine, emplie d'une émotion qui doit s'apparenter à de la fierté maternelle. Becker parle de l'exposition que l'équipe de Fairburn compte organiser l'année suivante. Le but est de rassembler pour la première fois plus de 60 pièces de Chapman, tableaux, dessins, sculptures et céramiques, dont la majorité n'a encore jamais été présentée au public. Je suis convaincue que l'examen de l'ensemble de ses œuvres va permettre de réévaluer l'importance de Chapman, afin qu'elle soit enfin reconnue comme une figure majeure de l'expressionnisme abstrait en Grande-Bretagne, déclare Becker. Jusqu'à présent, les critiques ont surtout fermé les yeux sur sa contribution, d'une part parce que c'est une femme, de deux parce qu'au début de sa carrière, elle était en décalage avec les artistes conceptuels du mouvement des Young British Artists, très à la mode à l'époque. Un autre expert, un homme dont Grace n'a jamais entendu parler, affirme lui que si les critiques ont ignoré le travail de Vanessa, celle-ci ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. C'est elle qui avait choisi de se retirer de la scène artistique et de garder ses créations secrètes. Sans surprise, cette observation marque le coup d'envoi d'une série de commentaires dignes des tabloïdes. Les allégations portant sur cette superbe artiste torturée et ses nombreux amants, son mariage tumultueux, et par-dessus tout, la mystérieuse disparition de Julian après sa visite sur l'île d'Eris. « Je me suis rendue sur Eris », raconte Becker, et le cœur de Grace bondit de joie. « J'ai visité la maison de Vanessa ainsi que son atelier, ces lieux où elle vivait et travaillait, l'île qu'elle aimait, les paysages qui l'inspiraient. J'ai eu le plaisir de lire certains de ses carnets et de ses lettres, et j'ai hâte de les partager avec le reste du monde afin de faire découvrir son œuvre à un tout nouveau public. » Grace voudrait tourner la page ou faire défiler l'article jusqu'au passage où Becker mentionne les moments passés avec elle à la table de la cuisine, à parcourir les écrits de Vanessa et à discuter de son travail. Elle voudrait lire le passage où Becker explique combien Grace était importante pour Vanessa et combien elle lui était dévouée. Mais il n'y a pas de page à tourner et elle est arrivée en bas de l'article. Le nom de Grace n'y apparaît pas une seule fois. Entre ses côtes, la lame du poignard pivote d'un quart de tour. Marguerite a le tabac, mais Grace, quel plaisir lui reste-t-il? Elle peut encore nager dans la mer froide et se promener sur l'île, mais à présent, elle se sent seule sur la plage et elle est devenue craintive dans les bois. Elle repense aux hommes de ce matin, à leurs rires moqueurs. Elle visualise leur visage et l'un d'eux se transforme. Il passe du rire à la panique et devient le garçon en train de s'étouffer. Elle ferme les yeux. Sont-ils repartis, ces intrus? Ou sont-ils toujours là, sur son île? C'est marée haute et elle ne les a pas vus repasser. Est-ce qu'ils attendent la tombée de la nuit? Et après, que comptent-ils lui faire? Les mains tremblantes, Grace retourne devant la porte d'entrée, mais au moment de tirer le verrou, elle hésite. Elle pourrait sortir, scruter la colline, le sentier qui mène à l'atelier et à la forêt. Non, c'est inutile. Rien ne l'assurerait que ces hommes ont bien quitté les lieux. Elle ne va tout de même pas passer la nuit entière dehors à attendre de les voir rejoindre la chaussée submersible. Mieux vaut laisser la porte fermée, tourner les talons et se persuader qu'ils sont partis. Elle ne doit pas céder à la folie. Elle doit rester rationnelle et se tenir occupée. Cuisiner, manger, lire un livre, aller se coucher. Hélas, elle est incapable de bouger, de se résoudre à faire comme si de rien n'était et de reprendre ses petites habitudes et ses petites corvées. Sachant que demain, elle devra recommencer, ainsi que le jour suivant et tous les autres jours jusqu'au dernier. On ne peut pas vraiment dire que ce soit une révélation, et pourtant devant cette porte, la main sur ce verrou, c'est l'impression que cela lui donne. Avant, il y avait son travail, puis il y a eu Vanessa, puis la pandémie, c'est-à-dire de nouveau le travail, un travail éprouvant, éreintant et parfois insupportable, que Grace a néanmoins fini par prendre comme une bénédiction. Car elle n'était plus seulement nécessaire, elle était essentielle. Quelle est sa raison d'être désormais? Son fantasme ne deviendra pas réalité. Becker ne viendra pas lui rendre visite avec sa famille et ne lui proposera pas un rôle au sein de la Fondation Fairburn. Grace va disparaître, seule et oubliée de tous. Quelque part, c'est déjà fait. Après un moment qui lui paraît durer des heures, Grace finit par arracher ses doigts gelés au verrou et s'éloigner. Dans le débarras caché derrière la toile, elle récupère trois tableaux. D'abord le petit portrait, puis Totem, et enfin le plus grand, celui qui est là depuis bien avant la mort de Vanessa, sa dernière peinture noire. Elle emporte les trois dans la chambre de Vanessa et les installe contre le mur, face au lit. Elle se tiendra compagnie elle-même. Grace retourne dans la cuisine et fouille le carton de papier qu'elle s'est mis de côté. Curieusement, pour quelqu'un de si vaniteux, Vanessa n'aimait pas être prise en photo. Il existe très peu de clichés d'elle et aucun d'elle avec Grace. Au fond de la boîte, cette dernière trouve deux photos de Vanessa avec Frances sur la plage de Portmuir, en Cornouailles, et celle d'elle-même avec ce pauvre Nick Riley dont l'artiste a gratté le visage. Elle revient dans la chambre et les pose sur le fauteuil à côté du lit, en pliant chacune des images pour cacher Frances d'un côté et Nick de l'autre. Il ne reste plus que Vanessa et Grace. Voilà qui est mieux. Elle ouvre la fenêtre. Dehors, il fait froid, sans un souffle de vent. Dans la nuit qui tombe rapidement, la mer est placide, l'air est bleu et tranquille. Les goélands silencieux planent tels des spectres le long de la côte. En frissonnant, Grace se dirige à pas feutrés vers la coiffeuse de Vanessa, ouvre le tiroir et en tire une seringue et un flacon de 300 ml de sulfate de morphine 10 grammes par 5 ml qu'elle pose tous les deux sur la table de chevet. Après réflexion, elle va à la cuisine chercher un verre à whisky et une bouteille de la gaveline. Puis, elle s'enferme dans la chambre de Vanessa. Elle aimerait tant qu'il y ait une tempête. La nuit de la mort de Vanessa, les vagues se fracassaient contre les rochers. La pluie et l'écume tambourinaient contre les vitres. Mais elles étaient à l'abri des rafales de vent et de la mer vorace. Elles étaient ensemble, au sec, hors de portée, hors de danger. Grace aimerait s'éteindre au cours d'une nuit comme celle-là. Elle se sert une double dose de whisky et lève son verre à la santé de son propre portrait. Enfin, elle s'emmitoufle dans une couverture, s'appuie contre la tête de lit et capitule. Elle se laisse envahir par la chaleur de l'alcool, par l'image du jeune homme en train d'étouffer, par les larmes qui se sont accumulées telles une masse de nuages noirs derrière ses yeux.